Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute! Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans Émotion, on aime aborder tous les sujets qui vous touchent, dont un qui revient souvent est la confiance en soi. Saviez-vous que l'acné arrive en tête des complexes physiques chez les femmes comme chez les hommes? Et l'acné à l'âge adulte peut saper toute confiance en soi. Si vous êtes dans ce cas, je voudrais vous parler du sérum acide salicylique anti-imperfection de Caudalie, notre sponsor en ce moment. Ce sérum de la gamme Vinopure, c'est la solution naturelle des peaux à tendance acnéique qui améliore la qualité de votre peau avec 2 fois moins de boutons dès une semaine. Le sérum combine un trio d'actifs puissants, naturellement efficaces pour lutter contre les imperfections. Acide salicylique, niacinamide et polyphénol. Retrouvez une belle peau pour vous lancer en toute confiance dans tous vos prochains projets. Merci à Caudalie pour leur soutien et bonne écoute.
Ça vous est forcément déjà arrivé d'en vouloir à quelqu'un. Parce qu'on vous a fait une remarque que vous avez mal prise. Parce que vous êtes persuadé d'avoir eu raison, mais que la personne en face ne l'entendait pas de la même oreille que vous. Ça vous a alors fait cogiter, ruminer, et ça a pris de la place dans votre cerveau. C'est quoi la rancune? Pourquoi est-ce qu'elle nous concerne tous? En quoi est-elle différente de la rancœur? Et comment faire pour s'en débarrasser? Dans cet épisode, c'est Maïwenn Bordron qui a décortiqué les ressorts de cette émotion pour nous. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion.
Ça vous est donc sans doute déjà arrivé à des degrés différents d'en vouloir à quelqu'un. Un ou une amie qui vous trahit, qui ne vous donne pas de nouvelles, un chef qui vous humilie, vos parents qui vous déçoivent. La rancune se transmet parfois de génération en génération. Une vieille histoire de famille qu'on ressasse, des problèmes de voisinage qui perdurent. Certains apprennent même à devenir rancuniers en se calquant sur le modèle parental. C'est ce qui est arrivé à Mathieu. Il vit en région parisienne et a aujourd'hui 37 ans. Et très tôt, il s'est imprégné de la rancune transmise par sa mère. Il a commencé à la ressentir notamment à partir du divorce de ses parents.
Ma mère, quand j'étais plus jeune, on était allés vivre tous les deux dans une grande maison, enfin grande, non, une petite maison, enfin bref. On vivait que tous les deux et quand je la vexais, Quand elle était vexée, elle faisait la tête. Elle s'enfermait dans un mur de silence. Ma mère, son grand truc, c'est le silence, c'est pas lui parler pendant longtemps. Ça a créé un rapport un petit peu difficile hein, avec elle. Je me souviens quand je la vexais, ma mère, elle se recroquevillait sur elle. En fait, elle voulait plus entendre parler de quoi que ce soit. Et elle me ressortait régulièrement les choses du... Voilà, qui s'était passé, pas le pardon facile, quoi. C'est quelque chose de très, très compliqué. Ma mère, elle avait quelque chose de comment dire, Tout ce qu'elle voulait, c'était me punir beaucoup.
C'est en voyant sa mère être rancunière que Mathieu l'est devenu aussi. La rancune a très vite fait partie de son quotidien et elle a, à son tour, progressivement infiltré ses relations aux autres. Il y a une histoire en particulier qui l'a marquée avec un de ses amis très proches. Ce trentenaire s'en rappelle encore.
Un jour, je me souviens, on était en soirée, c'était en août, il y a 2 ans. Et on boit un coup avec notre bande de copains, voilà, parce qu'on fait partie de la même bande de potes. Et je le sens un peu agressif envers moi. Et puis à un moment, il me lance une première pique. Je sais plus exactement ce qu'il m'a... La première, je sais plus exactement ce... Enfin, bref, il me balance une première truc, je le prends pas super bien, bon. Je me dis, la soirée va continuer. Et puis je lui parle d'un truc qu'il y avait à ce moment-là, c'est que j'avais un problème d'image de moi. Et j'avais décidé de faire un shooting photo parce que ben, je me suis dit, je vais faire appel à un photographe afin de me sentir mieux. Je ne trouvais pas forcément mon visage très beau, mon sourire ou quoi. Et donc, lui, il me dit, mais t'as pas besoin de ça, machin, tout. Ton sourire, il est très bien, mais au fait, est-ce que c'est à cause de ton poids ? Alors déjà, je prends le truc un peu mal. Il fait « Ouais, non, mais si, quand on faisait du sport ensemble avant, je t'avais vu, t'avais perdu du poids, je t'avais jamais vu aussi heureux. » Ça commence déjà à bien me gonfler. Puis, bah, écoute, non, là, je suis désolé, mais tu peux pas dire ça. Je me suis barré, je suis rentré chez moi. Il m'a fait très mal à ce moment-là. Il m'a fait très très mal, et j'ai décidé de couper les ponts. Quelque part, je m'étais dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible de me retrouver dans une situation avec quelqu'un qui, non seulement me blesse, mais en plus, quand je lui dis, se permet de se justifier comme ça. C'était pas possible. Et pendant 4 mois, on ne s'est plus parlé. On a en soi quelque chose qui fait mal. Comme si on avait un oursin dans l'estomac. Et si on essaye de le faire remonter, bah, ça risque de piquer, ça risque de faire mal tout du long. Mais si on le fait pas sortir, bah, on guérira jamais. On guérira jamais. Et donc c'est compliqué de vivre ça, quoi, de vivre avec ça et en même temps. Réussir à le sortir, c'est un exercice, c'est une épreuve qui nous permettra de guérir par la suite. Mais d'abord, c'est une épreuve. C'est une épreuve à affronter qu'on n'a pas envie d'affronter.
Pour Serge Effèze, psychiatre et psychanalyste, tout le monde peut être concerné par la rancune, car elle peut cibler potentiellement tous les gens avec qui on est relié. C'est selon lui une expérience qu'on a tous traversée. Mais comment expliquer alors qu'elle disparaît chez certains et qu'elle demeure chez d'autres ? Selon Serge Effèze, c'est parce que la confiance en l'autre est atteinte.
Les liens, c'est ce qui nous porte, hein, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous nourrit. Donc si on ne peut plus s'accrocher ou se tenir au lien comme étant quelque chose qui nous soutient, le lien devient quelque chose de dangereux. Ça devient comme une corde qui, au lieu de vous rattraper parce qu'on tombe dans une montagne, c'est la corde qui vous étrangle. Alors c'est la même corde, mais elle n'a plus tout à fait le même sens. Et donc c'est le lien à l'autre qui est menacé, et même ça peut infiltrer tous les liens aux autres. C'est-à-dire, si on ne fait plus confiance à son conjoint, par exemple, est-ce qu'on va continuer à faire confiance à ses amis, à ses collègues ? Enfin, c'est très pernicieux.
Si on reprend le cas de Mathieu, c'est exactement ce qui lui est arrivé. Son ami Michel savait que le sujet de son poids était sensible et il lui a quand même fait une remarque dessus. Mathieu le reconnaît, il manque de confiance en lui. Et selon Serge Effèze, c'est un élément important à prendre en compte.
Par contre, il y a des natures qui sont beaucoup plus pessimistes, avec une moins bonne image d'elles-mêmes, voire une vision un peu persécutée du monde, une vision un peu parano du monde. Et alors là, la rancune, elle vient très très vite. Il suffit d'une petite remarque qui est faite à la légère, dont l'autre ne se rend même pas compte, ou que l'autre ne vous prête pas suffisamment attention, ou qu'il ne soit pas tout à fait de votre avis. Bref, il suffit de peu de choses à ce moment-là pour que la rancune s'installe.
Thank you. La rancune, c'est donc en vouloir à quelqu'un. On n'a pas forcément exprimé ce ressentiment à ce moment-là et on l'a mis dans une armoire. C'est en tout cas la métaphore qu'utilise Serge Hefez pour décrire la rancune. On remplit, au fur et à mesure, les tiroirs de cette armoire. On garde cette rancune, on se repasse l'histoire en boucle, on n'arrive pas à s'en défaire. Et vient alors une phase de macération, de rumination, qui peut avoir des conséquences sur la santé si les tiroirs ne sont pas vidés.
La rancune, elle s'accumule, encore une fois. Ces armoires, ces tiroirs, et c'est ça qui sont à l'intérieur de nous, ils sont dans notre corps. Et ça peut être très lourd. Donc, ça peut créer des... chacun réagit après avec sa structure mentale. On peut développer des troubles psychosomatiques, on peut développer un ulcère, mais on peut aussi développer une dépression ou une anxiété extrêmement forte. L'accumulation de la rancune peut être à l'origine de troubles physiques, de troubles psychiques, ou les deux.
Dans le cas de Mathieu, cette rancune qu'il a si souvent lui cause des troubles du sommeil. Il a du mal à dormir, il fait parfois des insomnies. Les conséquences de la rancune sur la santé physique et mentale ont été démontrées par des chercheurs, aux États-Unis notamment, où depuis plusieurs années, Lorraine Toussaint, un professeur en psychologie au Luther College dans l'Iowa, mène des études sur cette question. Il a notamment observé que les personnes qui gardaient de la rancune développaient plus de problèmes de santé que les autres.
The bitterness and sometimes what we call we use the word holding a grudge against.
L'amertume est ce qu'on appelle la rancune ou avoir une dent contre des gens. Ce sont des émotions qui rendent stressant, en colère, hostile parfois. Ces expériences ont des conséquences sur le plan biologique. Elles entraînent une augmentation du rythme cardiaque, elles augmentent la pression artérielle, elles provoquent la sécrétion d'hormones qui sont normalement produites lors d'expériences stressantes. En petite quantité, ça n'a pas de conséquences. Mais si notre corps est exposé plus longtemps et de façon plus chronique à ces hormones, il a plus de difficultés à les intégrer de façon adéquate et efficace. Donc ce type d'émotions qui nous font garder de la rancune et de l'amertume envers des événements passés ou envers des personnes qui nous ont fait du mal ou dit des choses peuvent déclencher des mécanismes biologiques qui pourront faire de nous des personnes en colère, hostiles, stressées. Et ça entraîne une mauvaise santé mentale et physique parce qu'on sait aujourd'hui que le stress est lié à toutes ces conséquences négatives.
La rancune peut donc nous ronger de l'intérieur. Mais comment s'en débarrasser quand elle nous fait tant de mal? Pour Serge Hefez, puisque la rancune vient d'un lien altéré avec l'autre, comme il nous le disait au début, il faut donc forcément repasser par l'autre pour s'en débarrasser.
Déjà, le fait que l'autre prenne conscience qu'il vous a fait du mal ou qui vous a donné le sentiment de vous trahir ou de ne pas vous soutenir, eh bien, ça permet de retisser le lien. Déjà, c'est-à-dire la façon dont l'autre va réagir à ça, c'est-à-dire s'il l'entend, si même peut-être il s'excuse ou s'il prend conscience de ce qui s'est passé, eh bien, ça, le lien qui s'est un peu effiloché, eh bien, il peut se retricoter, se refabriquer autour de ça. Par contre, si l'autre ne reconnaît rien, si l'autre n'est pas du tout à la mesure de ce que vous ressentez, eh bien, à ce moment-là, ça peut permettre de prendre de la distance. C'est-à-dire, on se dit, l'autre, il ne me convient pas, il n'est pas comme j'ai envie qu'il soit, il n'est plus ce qu'il a été pour moi. Et donc, là aussi, ça permet de s'en dégager. Si, par contre, on n'exprime pas ce qui s'est passé. Alors, ça peut être, encore une fois, en parler directement avec l'autre pour ajuster le lien. Ça peut être en parler, par exemple, à d'autres amis ou des gens de confiance qui vont aussi réajuster les choses en disant « tu ne dois pas voir les choses de cette façon », qui vont permettre de retravailler l'événement, je dirais. La pire chose, c'est de le garder pour soi, c'est-à-dire ça s'accumule. Ça s'accumule. Et si ça déborde, eh bien, on peut rentrer véritablement dans une dépression, par exemple, ou dans une très mauvaise image de soi, ou dans un rapport extrêmement agressif aux autres.
C'est ce qui est arrivé à Mathieu. Dans le cas de sa dispute avec Michel, cet ami dont il nous parlait en début d'épisode, Mathieu était là aussi bien parti pour lui en vouloir longtemps. Mais les deux hommes font partie du même groupe d'amis. Mathieu a donc été amené à recroiser Michel en soirée plusieurs fois. Il ne lui a au départ pas adressé la parole. Il a fallu que le déclic vienne d'un autre ami pour qu'il se décide à se débarrasser de sa rancune.
On était au bar et on a un pote à nous qui me dit « Oui, tu devrais quand même lui parler, etc. Tu vas voir, ça va s'arranger. » Enfin, je sais plus exactement ce qui me sort. Bon, je lui ai expliqué les choses, il s'est excusé. Il me dit « Ok, je suis désolé, puis on passe à autre chose. » Donc, j'ai pas eu l'impression d'un véritable repentir. On peut voir ça comme ça, mais... Et on s'est engueulé. Enfin, moi, j'ai gardé ça quand même dans un coin de ma tête. On s'est engueulé encore quelques mois plus tard. Et je me suis dit « Non, je suis trop fatigué. » C'est trop prenant. La rancune, c'est quelque chose de très prenant, c'est quelque chose de très énergivore. Chose que je peux pas continuer à garder éternellement. Au bout d'un moment, ça me bouffe. C'est très stressant. On vit avec quelque chose dans un coin de notre tête. Donc ce truc est encore dans un coin de notre tête. On n'a pas de la place pour autre chose. Donc j'ai fait OK. Je décide OK. J'arrête d'y penser, j'arrête de garder ça. C'était au bout d'un moment, on se dit que c'est plus possible. Et à partir de là, on peut entamer la reconstruction.
Cette reconstruction, c'est un processus qui a pris du temps à Mathieu. Il aura fallu tout un cheminement de plusieurs mois avant d'y arriver. Mais Mathieu était amené à revoir Michel. Leur amitié datait de plus de 10 ans, ce qui a, dans son cas, facilité le pardon. Le pardon, cela peut avoir des vertus en matière de santé physique et psychique, et cela peut aider à se débarrasser de sa rancune. Lors de ses recherches, Lorraine Toussainte, le professeur en psychologie du Luther Collège, s'est en effet rendu compte que les gens qui avaient une meilleure propension à pardonner parvenaient à diminuer leur rancune. Selon lui, il y a des cas par contre où l'expérience qui provoque la rancune est tellement traumatisante que le pardon n'est même pas envisageable. La rancune s'exprime alors dans sa version la plus extrême. Elle est tellement forte qu'elle peut se transformer en colère, voire en haine. C'est ce qui est arrivé à Philippe Guéméné, un père de famille qui vit près de Rennes. Le 7 juillet 2018, son fils, Dorian, a été frappé jusqu'à la mort à la sortie d'une boîte de nuit. Même si les meurtriers présumés de son fils sont condamnés par la justice, Philippe Guéméné en voudra toute sa vie à ceux qui l'ont privé de son fils.
Toute ma vie, je leur en voudrais. Toute ma vie, je ne leur pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai jamais de m'avoir enlevé mon fils. Voilà, il avait 24 ans. Il nous manque, vous voyez. On se sent toujours mal, on a toujours quelque chose qui nous manque et qui nous manquera tout le temps. Ça, c'est inévitable.
Dans son cas, ce qui pourrait l'aider à supporter sa rancune, c'est que justice soit faite et que les meurtriers présumés de son fils soient condamnés.
Ça nous aidera certainement, oui. Si effectivement on a une peine qui soit adéquate par rapport à ce qu'ils ont fait. Éventuellement, oui, ça peut nous aider à faire une partie du deuil. Ça ne nous fera pas revenir notre fils, on y pense toujours. Pour l'instant, on a du mal à dire qu'il ne viendra plus. Peut-être que le procès nous aidera par rapport à ça, justement.
Lorsque la rancune est si forte et qu'elle se transforme en colère immuable, le désir de vengeance peut rapidement apparaître. Philippe Guéméné le reconnaît. Il a d'abord pensé à se venger, à faire payer le mal qu'on lui a fait en lui enlevant son fils, avant de finalement réussir à s'en détacher avec du recul. Selon le psychiatre Serge Effèze, la vengeance reste la plupart du temps à l'état de désir. Souvent, on se refait plutôt le film dans la tête. Et dans ce cas-là, la rancune s'auto-entretient.
Elle peut activer des ruminations. Des espèces de scénarios imaginaires dans lesquels on exprime les choses ou dans lesquels on se venge ou etc. Mais elle n'appelle pas toujours des actes de vengeance à proprement parler, mais ça peut aller jusque-là. Moi, j'ai vu encore récemment une femme qui, quand elle a appris qu'elle a été trompée, elle est allée crever les pneus de son amant, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, les scénarios intérieurs de vengeance, ils sont très présents et ils participent de cette rumination. Parce que ça veut dire qu'on joue dans l'imaginaire des scènes qu'on ne joue pas dans la réalité. Et donc, on a beaucoup de mal à s'en détacher, en fait.
Ça devient plus dangereux quand la rancune vise non pas une personne, mais un groupe dans son ensemble. C'est la nuance entre la rancune et la rancœur. La rancune est plus ciblée. On en veut à quelqu'un pour quelque chose de précis. Alors que la rancœur est un sentiment plus diffus. On éprouve alors du mal-être. On en veut aux autres, en général, sans distinction. Et on ne sait pas vers qui diriger son malaise. Il est donc plus dur de se débarrasser de la rancœur que de la rancune, selon Serge Hefez.
La rancœur, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait pas très bien à quoi l'attribuer. Alors, on sait qu'on se sent mal, on sait qu'on a des sentiments négatifs, on sait qu'on en veut à la terre entière, mais pas à une personne en particulier. Voilà, on a le sentiment de ne pas avoir été suffisamment reconnu ou suffisamment aimé, parfois à raison, hein, ce n'est pas forcément des visions délirantes des choses. Mais en tout cas, on ne sait pas très bien à quoi l'attribuer. Et donc, ça demande un vrai travail de réflexion et de prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, ça demande à, au lieu de revisiter un événement, finalement, qui a été un peu traumatique, ça demande à revisiter des tas de pans de son histoire. Donc, effectivement, c'est plus compliqué, je pense, de se débarrasser de la rancœur que de la rancune.
La rancœur peut parfois se construire à travers l'affrontement de deux groupes ennemis. On en veut à un groupe de personnes en entier pour une histoire commune. C'est un thème sur lequel a travaillé Laetitia Bucaille, professeure de sociologie à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales basé à Paris. En 2010, elle a publié le livre « Le pardon et la rancœur, Algérie, France, Afrique du Sud, peut-on enterrer la guerre ?» Et selon elle, dans ces deux cas précis, ce sont les élites au pouvoir qui ont joué un rôle dans la construction de modèles tournés soit vers le pardon, soit vers la rancœur.
En fait, effectivement, en Afrique du Sud, les élites politiques ont fait un gros travail pour promouvoir le pardon et la réconciliation, qui ont fonctionné de manière imparfaite, bien sûr, mais ils ont promu ce programme, en fait, de refonder une nation et donc d'inciter les uns et les autres à se pardonner. Il y a eu bien sûr le travail considérable accompli par cette commission Vérité et Réconciliation, qui n'a pas forcément organisé des échanges de pardon, mais qui a incité au rapprochement entre les parties. Et en tout cas, une chose très importante, effectivement, c'est qu'on a parlé d'un grand nombre de choses, de crimes qui avaient été perpétrés sous l'apartheid, et on a pu les évoquer si ces crimes n'ont pas été forcément pour la plupart jugés, ils ont en tout cas été exposés. Entre la France et l'Algérie, rien de tel ne s'est produit. Il n'y a pas eu du tout ni de travail d'une commission, ni de travail d'une instance judiciaire quelconque. Donc ce sont plutôt des mémoires individuelles, des mémoires collectives autour de groupes, enfin, du côté français. La configuration ne se décline pas de la même façon du côté français et du côté algérien. Du côté français, le groupe que j'ai étudié, il s'agit de l'OS, l'organisation armée secrète qui s'est opposée à l'indépendance de l'Algérie, qui s'est formée dans les dernières années de la guerre, a lutté donc contre... à la fois contre le FLN, mais aussi contre la France, contre la police, contre les libéraux. Donc ce groupe qui a doublement perdu, à la fois contre les Algériens et contre la France, qui a été réprimé par la France républicaine, se retrouve dans cette situation de double défaite, et puis dans cette double défaite qui est un petit peu... compliqué à accepter pour eux, parce que finalement, ils se sont battus au nom de la France, au nom d'une idée de la France qu'ils avaient, et finalement, cette France les condamne. Donc, il y a une espèce de, d'impossibilité, enfin, ou de difficulté là, à expliquer sa trajectoire politique qui nourrit le ressentiment, qui nourrit l'amertume, le discours, un discours de rancœur contre l'Algérie indépendante, mais surtout, en fait, contre la France de Gaulle et contre l'État français.
Lors de ses recherches en Afrique du Sud, pays où le modèle du pardon a, selon elle, été favorisé par les élites au pouvoir, Laetitia Bucaille a rencontré une femme qui a décidé de pardonner contre toute attente à l'un des responsables de la mort de sa fille. Il s'agissait d'une Afrikaner, une femme blanche descendante des colons européens. Et dans son cas, la rancœur contre tout un groupe de personnes a alors disparu au profit du pardon.
C'est une femme Afrikaner qui a perdu sa fille lors d'un attentat organisé par le Pan-Africanist Congress qui a eu lieu au début des années 1990. Et elle a rencontré le commanditaire de cet attentat, auquel elle a décidé de pardonner, effectivement, sans que celui-ci demande pardon. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui se passe souvent dans l'autre sens, c'est-à-dire que souvent, c'était des hommes blancs qui devaient faire face à des femmes noires. Là, c'est le contraire. Pour cette femme africanaire, elle a décidé de pardonner à cet homme qui ne lui a pas demandé pardon. Elle dit que dans sa gestuelle, dans son body language, elle avait senti qu'il lui demandait pardon. Enfin, c'est quand même une question d'interprétation. Non seulement elle lui a pardonné, mais elle a établi avec lui une fondation au nom de sa fille, mais qui œuvre en faveur du village dont est originaire cet homme. Parce que ils ont parlé ensemble, bien sûr. Cet homme a expliqué son parcours, la situation de pauvreté dans laquelle se trouvait son village, etc. Donc, c'est effectivement assez particulier.
Dans le cas de cette femme, la rancœur contre le groupe à l'origine de la mort de sa fille s'est donc transformée en rancune envers un homme, puis en pardon. À travers l'exemple de cette femme sud-africaine, on comprend donc qu'on peut parfois se débarrasser de sa rancune, même quand l'autre n'est pas prêt à faciliter cette démarche. Mais comment faire pour se débarrasser de sa rancune quand celui à qui on en veut n'est plus là, quand on se retrouve seul avec ? Mathieu garde encore aujourd'hui en lui de la rancune envers des camarades de classe qu'il ne reverra pas. Il aurait pu ne jamais se dépêtrer de cette émotion, mais il a appris à tourner la page sans en passer par un lien avec l'autre.
J'ai été harcelé, par exemple, à l'école, au lycée ou quoi, et les élèves qui m'ont fait ça, je ne pourrais plus les revoir. C'est à moins de les rechercher, etc. Et je n'ai même plus les noms de ces personnes, je ne pourrais plus jamais les revoir. Et ce tempérament rancunier dont j'ai du mal à me débarrasser, c'est... Je ne peux pas attendre de réparation de la part de ces personnes-là. Je ne peux pas. Elles ne sont plus là. Elles n'ont plus la possibilité de s'excuser, de reconnaître et qu'on aille de l'avant. Des choses comme ça qu'on ne peut plus faire. Il n'y aura pas toujours du répondant de la part de l'autre en face. Et que ce n'est pas pour l'autre qu'il faut pardonner, c'est pour nous.
Mathieu, lui, a donc réussi à se débarrasser de sa rancune grâce à un lourd travail qu'il a fait sur lui-même. Il a pardonné à des amis avec qui il a pu discuter, comme Michel, mais aussi à des gens qui ne lui ont pas demandé pardon, comme ses anciens camarades de classe. Pour ne pas alimenter sa rancune, Mathieu s'est nourri de choses qu'il dit constructives, comme de la musique et de l'art dont il est passionné, et sur lesquelles il s'est concentré pour passer à autre chose. Accorder le pardon, surtout à des gens qui ne nous l'ont pas demandé, n'est pas un travail qu'on doit forcément faire seul. Il peut parfois être utile de s'adresser à des professionnels dans le cadre de thérapie. Dans tous les cas, l'idée est de s'alléger pour ne pas se laisser appesantir par la rancune ou la rancœur, pour pouvoir avancer toujours plus dans sa vie.
Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média.
Suivez-nous sur Instagram et Twitter, @émotionpodcast, émotion avec un S. Vous y trouverez nos recommandations de lecture sur la rancune et encore tout un tas de livres sur plein d'autres émotions. Maïwenn Bordron a réalisé cet épisode sur la rancune. J'en étais à la rédaction en chef. Maureen Wilson était responsable éditoriale. Nicolas Vert a assuré la création sonore et la musique de cet épisode. Bernard Nattier s'est occupé de l'enregistrement. Jean-Baptiste Aubonnet, du mixage. Jean Mallard a réalisé l'illustration et Nicolas Degélis a composé la musique du générique d'émotion. Merci à toutes nos interlocutrices et à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si cet épisode vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À très vite.
Bonjour, c'est Zoé de Louis et j'aimerais vous parler du podcast Symptômes, le podcast d'enquête médicale de RTL dans lequel des médecins se confient sur les cas les plus marquants de leur carrière. Chaque histoire dévoile toutes les phases émotionnelles, psychiques, de doute, d'angoisse, d'urgence, d'attente, mais aussi les étapes de recherche, l'écoute de soi et du patient. Bref, si vous cherchez un podcast, écoutez Symptômes, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.